CCE, vous informer et vous donner la parole.
Bonjour Chaville, il est 8h, c'est déjà la 93e émission de Radio VCE depuis 2022. Au programme cette semaine, encore beaucoup de choses. Monique, de quoi vas-tu nous parler ?
Eh bien, nous allons parler avec Gilbert Guillain, qui revient nous voir. Nous allons parler d'une œuvre, celle d'Edith Wharton, et en même temps, en profiter pour faire quelques échanges sur l'évolution de la société américaine et le résultat des élections du 5 novembre dernier.
Très bien. Et Alain de Frémont ?
Eh bien, c'est Noël. Nous sommes au mois de décembre, mais ni à l'Atrium ni au Sel, vous aurez des pièces sur Noël, mais sur autre chose.
Bon, nous allons vite voir ça. Tout de suite, dossier du quotidien.
Dossier du quotidien avec Monique Couteau.
Bonjour Gilbert, tu étais déjà venu dans ce studio.
Oui.
Aujourd'hui, tu viens nous présenter le livre auquel tu as participé et nous dire aussi quelques mots sur Edith Wharton.
Voilà, alors merci à VCE de me redonner la chance, l'opportunité de parler à ce micro. Je suis professeur de lettres et de philo retraité. Je dispense du cours bénévole, hein, c'est toujours 07 87 55 17 58 dans les matières littéraires. Et comme chaque année, je produis un livre pour le test préparatoire. C'est un livre qui est destiné à préparer les concours en prépa scientifique qu'ils ont résumé à faire, une dissertation à faire sur trois œuvres. Une œuvre d'Eschyle, une œuvre de Spinoza et une œuvre en fait d'Edith Wharton. Ces concours mènent aux grandes écoles scientifiques, polytechniques, centrales, etc. On les aura assez divers et on ne saurait conseiller aux candidats de regarder de très près ce qu'il y a notamment dans les oraux.
Oui, c'est pointu.
Oui, c'est pointu, exactement. Et c'est plus pointu que les concours de commerce.
Est-ce que tu veux parler d'Edith Wharton ou
oui,
alors
oui,
on
oui.
En parle
alors, oui,
dans
on
la...
Peut, on peut très, très on... brièvement, mais on va enchaîner à partir d'Edith Wharton ouais. Sur la question en fait, suivante. On a donc Eschyle, qui est un poète épique de l'Antiquité. On a trois œuvres dans ce programme de subspect, des prépas scientifiques. Spinoza, qui parle des droits de l'individu, et Edith Wharton, qui en fait est une romancière américaine, qui a publié un roman, entre autres, qui s'appelle Le temps de l'innocence, en fait, en 1920. Une femme de lettres, il faut le dire, il y en a eu dans la tradition française, il y a eu Olympe de Gouges, Flora Tristan, etc., qui a obtenu le prix Pulitzer, donc une figure féminine et aussi en fait du féminisme qui conteste un peu les contraintes, elle n'est pas contre le mariage, mais elle conteste un peu les contraintes du mariage. Avant elle, il y avait une devancière qui était Mary Wollstonecraft au XVIIIe siècle, qui elle avait dénoncé carrément en fait le mariage. Alors, en 1920, Edith Wharton fait une satire assez polémique d'ailleurs, de la société new-yorkaise bourgeoise américaine coincée vers 1970. Société bourgeoise, société rigide, société conformiste, dont se détachent simplement deux personnages qui sont Newland Archer et Mrs. Olenska. Dans tout un ensemble, disons, de péripéties sociales, mondaines, amoureuses, qui seraient beaucoup trop longs pour décrire ce soir.
Donc, tu as présenté un petit peu l'autrice dans son œuvre, mais quelle société, tu l'as évoqué en parlant de la société bourgeoise, est-ce qu'il y a quelque chose
oui,
d'autre
alors,
en tirer.
Il n'y a pas une société aux États-Unis comme aujourd'hui. Il n'y a pas eu dans l'élection. Il y a 50 États. Il y a une nation américaine avec des valeurs américaines, mais il y a différents types de sociétés suivant en fait les régions et en fait suivant les classes, même si ils se constituent aux États-Unis dans les années 20 une classe moyenne effectivement assez forte. Mais en fait, elle met l'accent sur l'oligarchie, c'est-à-dire en fait la classe dominante qui sont à la fois les financiers, les industriels, etc., dont on a des vues dans différentes œuvres qui me sont venus à l'esprit et que j'ai traité dans le livre, puisque j'introduis certains textes à résumer par des panoramas généraux de la société américaine dans différentes régions et à différents moments, notamment. Vous pouvez voir ça sur Facebook, c'est ce qui se passe le soir du dîner dans la première classe du Titanic, le côté hypocrite et arrogant des convives qui sont face à un jeune roturier malvenu, entre guillemets, qui est John Dawson, qui a gagné sa place de Titanic au poker. En Angleterre, cette gigantesque fresque familiale qui est la saga des Forsyth de Goldsworthy, qui était passée à la télévision française en 76-69. Et puis, il y a d'autres vues sur la société américaine, américaine, les années 50-60, la fin des années 60 avec le cercle des poètes disparu, hein, la rébellion des jeunes contre un ordre, en fait, si vous voulez, paternel. Et puis après, la réaction de 68, les marginaux des années 60, qu'on appelait les misfits ou les dropouts. Misfits, c'est les inadaptés, en fait, d'une part. Et puis ensuite, les minorités, ce que notre droite aussi, en France, appelle d'une manière assez primaire et grossière et globale, les woke. Les minorités vont, en gros, ce qui regrouperait, d'une manière complètement amalgamée, tout ce que la droite n'aime pas. C'est un terme confus et générique, qui est, si vous voulez, pas forcément très sérieux, dont la droite prétend que ça envie Sciences Po, les Sciences Po de province, etc., etc. Enfin, ils sont dans une vision paranoïaque, qui voient le wokisme partout.
Mm-hmm. Alors, bien, de 1920 au wokisme, tu nous as amené à l'époque extrêmement contemporaine. On a vu qu'il y avait dans cette histoire de société américaine toute une série de confrontations. Les dernières, quelles confrontations dans le match Harris-Trump ?
Voilà la question. Alors, on a eu assez souvent, au fond, dans le passé, des politiciens classiques qui s'affrontaient. On a eu aussi des gens plus décalés ou plus marginaux, comme Carter, à un moment donné, qu'on avait présenté comme le fils d'un planteur de cacahuètes. Mais on a à chaque fois un match en fait inédit dans le profil de chaque compétiteur. Harris, c'est elle a pas une grande visibilité quand elle était vice-présidente. Donc c'était déjà, elle était pas mauvaise, mais c'était pour elle sans doute un certain passif. Elle est comme rentrée tard dans la campagne, faut le savoir, quelques semaines quand on a vu que de toute façon Biden ne tenait pas la route,
ça me pression. Mais qu'il a résisté quand même un certain temps.
Oui, il a résisté un certain temps avant de jeter l'éponge. Peut-être oui. Est-ce que ça aurait altéré le résultat?
J'sais pas
sûr. Mais bon, elle a réussi le débat contre Trump, où Trump était toujours très excentrique et très provocateur. Elle a dû le suivre parce qu'elle a essayé de déstabiliser son récit et tout le narratif qu'il avait mis en place pour se vanter, se valoriser. Son programme, je parle toujours de Kamala Harris, son programme aurait dû être plus, sans doute peut-être plus précis. Elle a parlé beaucoup des minorités, ça c'est assez typique quand même du camp démocrate, et elle a utilisé une communication, je dirais, assez polissée et assez peu incarnée, pas complètement désincarnée, nouvelle comme un politique, une femme, et puis d'origine à la fois indienne et jamaïcaine, donc nouvelle, installée comme dans le système américain, puisque procureur, en fait, à San Francisco, mais une candidature assez polissée, d'une part, en répétant que Trump est un danger, ça on a bien compris. Il y a une citation assez comique, d'ailleurs, d'un député français de la France Insoumise, c'est Antoine Léaumont, qui la situe entre Hidalgo, c'est Sandrine Rousseau, ce qui est très approximatif, et puis c'est en fait avec nos critères français, donc si vous voulez, c'est une comparaison très relative. Voilà pour la confrontation. Je pense qu'ensuite,
oui,
il s'agit des forces et des faiblesses
de
chacun.
Oui, c'est ça. C'est peut-être là ce que tu peux développer.
Oui, alors, d'accord. Alors, les forces et les faiblesses de chacun. Et au fond, les réserves électorales, parce que c'est là-dessus que les sondeurs, en fait, se sont fondés pour essayer de présumer ou de préjuger ou d'en inférer quelques pronostics pour le résultat. Je parle évidemment d'avant le scrutin. On sait que traditionnellement, les démocrates, c'est les deux côtes, la côte Est et la côte Ouest. Les républicains, ça serait plutôt le centre et le sud, parce que l'ancienne époque, si vous voulez, du sud ségrégationniste, les démocrates des années 60, avec George Wallace, etc., tout ça c'est terminé, c'est très loin, en fait, derrière nous. Harris, elle avait quand même un bon réservoir électoral, faut pas le négliger du tout, qu'elle a travaillé, parce que le Parti démocrate, c'est quand même une sacrée machine, je dirais, de travail, en fait, téléphonique, de visite à domicile, etc. Elle comptait aussi sur les abstentionnistes, les wokistes, mais en fait, c'est pas apparu vraiment, en fait, dans sa campagne, les juifs aussi, et en fait, les musulmans, mais on a constaté que dans le résultat, plus qu'avant, plus que dans les dernier scrutin, les minorités, ou les juifs ou les musulmans, les noirs, les hispaniques, sont allés vers Trump. ce qui était quand même un fait assez nouveau, puisqu'ils allaient habituellement dans le sens démocrate. Bon, elle a aussi récupéré des républicains modérés, mais c'est plutôt les intellectuels ou les figures politiques, donc c'est pas forcément une armée électorale extraordinaire. La presse, sauf le New York Times, la finance, tout ça c'était au crédit de sa force, des positions quand même assez nettement pro-Ukraine, ce qui est dans la tradition interventionniste toujours d'ailleurs du Parti démocrate américain, et puis un thème assez optimiste quand même de l'avenir, un discours sur l'avenir, une croyance dans les bienfaits de la globalisation libérale, un messianisme assez flou, plus offensif quand même pour Trump, qui lui s'est toujours vanté de redresser la situation qu'il estimait déclinante et complètement pourrie, entre guillemets, par le fait de Biden et par Harris, qui était en fait vice-présidente. Le messianisme, de toute façon, je dirais, c'est typiquement américain, donc là, il n'y a rien de nouveau, parce qu'il y a quand même évidemment un fond religieux assez important, les mouvements religieux soutenant plutôt Trump.
Les évangélistes,
absolument.
Hein.
Quand on voit dans les années 60 les meetings de Wallace, qui était un démocrate extrême avant 68, c'est une clientèle purement blanche et en fait chrétienne et en effet et messianique.
D'accord. Mais alors, comment peut-on expliquer le hiatus entre le match serré qu'on nous annonçait encore quelques heures, quelques jours avant le début des élections, et les résultats?
Oui, ça c'est une question qui en fait qui est la suivante, puisque on aurait la suivante qu'on avait inventée, c'était: pouvait-on prévoir un autre résultat? Et à partir de ce moment-là, en effet, là, il y a eu un fossé entre ce que l'on croyait, soit victoire de Harris, soit victoire très serrée de Trump dans les swing states, et ce qui s'est passé réellement, c'est-à-dire qu'en gros, une victoire nette quand même de Trump, notamment dans les swing states, les États en fait qui balancent, les États qui font le Wisconsin, la Pennsylvanie, le Michigan, etc., les États qui font, si vous voulez, la différence. Ce qui s'est passé, c'est que sans qu'on le sente vraiment depuis son premier mandat, d'une part, Trump a quand même élargi son assise politique. Ça, c'est assez clair aux classes populaires et moyennes. Et il a imposé un narratif, il a imposé un imaginaire qu'il a répété et martelé jusqu'à plus soif. Et il a saturé complètement l'espace politique de ce si je puis dire, narratif, ou même de ce boniment. Parce que, évidemment, c'est un assez peu son discours au niveau littéraire et politique tout est contestable. Ici, pas du tout pour Trump, mais j'essaye un peu, comme on peut le faire à Sciences Po, de voir un peu les forces et les faiblesses et les moyens, disons, des uns et des autres. Trump, qu'est-ce qu'il y a dans Trump? Il y a une bourgeoisie blanche chrétienne traditionnelle, mais d'un autre côté, c'était pas un aristocrate de l'establishment américain. C'est un financier, on le sait, mais c'est pas un politique classique comme l'était par exemple Johnson ou comme l'était Reagan, même si Reagan, il était acteur de cinéma, disait-on, de série B. Au départ, c'est un aventurier ambitieux, un publicitaire, un showman, mais qui a pu se mettre dans le système. Et qui a peu à peu progressé, comme Wallace l'avait fait, sauf que Wallace, avant 68, s'était arrêté à 46 grands électeurs, et puis il avait fini sous les balles de quelqu'un qui voulait l'abattre, et Wallace, il finit sa vie en fauteuil roulant. Bon, c'est connu. Et puis, alors, il y a un ensemble de thèmes porteurs et offensifs chez Trump, ce côté agressif, si vous voulez, a pu plaire, en effet, à ce public américain, moyen et populaire, c'est le thème de la revanche, si vous les voyez. Une sorte de revanche sur 2020, l'idée, sans doute fausse, que les élections de 2020 auraient été truquées, que s'il perd cette fois-ci, elles ont encore été truquées et qu'on va réagir, d'une part, donc la revanche sociale et revanche symbolique, donc des provocations constantes qui sont porteuses auprès des classes populaires et moyennes, elles-mêmes dépossédées de leur destin, déclassées et insatisfaites du gros du rêve américain, et ces classes populaires et moyennes font en fait un gros réservoir, de toute façon, y compris dans tout le centre, disons, des États-Unis, sensible à un narratif que Trump, si vous voulez, a mis en place, dans un style d'ailleurs assez grossier, qui n'est pas un style littéraire, parce que nous, dans la rhétorique française, on emploierait des formules sans doute dures, mais pas aussi choquantes. Il faut ne pas oublier qu'il y a le premier amendement américain dans la Constitution, qui est quand même fondé sur la liberté d'expression. Donc il a pu en user et en abuser, et il a passé au travers des poursuites judiciaires, militaire, et puis il s'est présenté aussi comme persécuté, après les deux attentats, le second ne s'étant pas d'ailleurs en fait réalisé. Donc tout ça a été porté à son crédit ou à son efficacité, d'une part. Donc il a parlé des classes, moyennes et populaires, atteintes par l'inflation, autant que de lui. On a eu, la semaine dernière, une petite conversation avec Jonathan Denuit, qui nous a expliqué précisément cet aspect que j'avais pas forcément vu. Bon, il a résisté, si vous voulez, évidemment, aux attentats, il s'est présenté comme persécuté. Pour l'aspect moderne, il a eu le soutien d'Elon Musk, c'est quand même pas rien. C'est-à-dire, en fait, c'est l'ultramodernité, le numérique à tout craint, la high-tech, etc., etc. Et puis, il a mis l'accent de manière assez précise et concrète sur ses projets qui sont les deux vieilles mamelles, ou enfin, disons, les points d'orientation du Parti républicain. C'est à la fois l'isolationnisme, d'une part, que l'Europe se débrouille, on va peut-être abandonner l'OTAN, et le protectionnisme. On va mettre des taxes élevées sur notamment les produits chinois, les puces, les voitures et puis le photovoltaïque. Bon. Et puis des positions concrètes, si vous voulez, sur aussi la dénonciation de l'inflation, d'une part, sachant que même si en effet les Américains gagnent un peu mieux leur vie, ils payent cher tout un ensemble de produits. Donc, en effet, il s'est adressé à ces classes moyennes et populaires, je veux dire, au fond, très largement. Ce qui évidemment a produit sa force et a contribué au résultat final. Moi, je pensais qu'il aurait gagné de manière serrée, mais là, il a gagné de manière quand même, je dirais, assez large. Donc, oui, mais il y avait un dernier point qui était lié au précédent que je viens de finir, dans lequel il y a, si vous voulez, simplement deux lignes. Est-ce qu'on aurait pu envisager un autre résultat a posteriori? Pas vraiment, mais il aurait été difficile de se prononcer, en fait, si vous voulez, avant, d'une part. On avait quand même oublié Trump, et puis Harris est venu, au fond, assez tardivement. En Europe, on avait certes le désir de voir Harris, effectivement, au pouvoir, d'une part, de voir Harris l'emporter, mais la réalité en a été différente.
Alors, en conclusion, Trump au pouvoir, à quoi peut-on s'attendre, y compris sur le plan international?
Voilà. Alors, tout ce sont des hypothèses, de toute façon, c'est hypothétique, puisque on disait déjà dans son premier mandat que Trump était quand même assez imprévisible, d'une part. Il entend, d'une manière assez rhétorique, se libérer du fardeau européen, ou mettre l'OTAN entre parenthèses. Bon, c'est ça gênant pour l'économie européenne, notamment, on exporte beaucoup de voitures allemandes aux États-Unis, il faut le savoir. Les Ukrainiens, ils ont peut-être quelques raisons de s'inquiéter, même si il fait un saut de satisfaction en disant que le sujet serait réglé en un jour ou en deux jours. La Chine, elle exporte beaucoup quand même aux États-Unis et il a un point de vue, y compris son vice-président, je crois que c'est Vance, très anti-chinois d'une part, et aussi Taïwan aurait les gens de Taïwan auraient, si vous voulez, du souci à se faire. Cela étant, il est assez imprévisible parce que d'un côté, il commençait à reprendre des contacts tous azimuts, c'est vrai, mais il y a les discours et puis il y a en fait les mesures qu'il peut prendre. Donc en fait, rien n'est joué. Sachant que dans cette situation, Macron, qui est quand même très affaibli, essaye de placer ses billes en faisant des discours sur le rôle de l'Europe, mais enfin, c'est assez rhétorique et c'est assez incantatoire.
Merci Gilbert Guillain, l'un des co-auteurs, on le rappelle, du livre « Individus et communautés » Eschyle Spinoza-Wharton, destiné aux prépas scientifiques dans la collection « J'intègre » de Duno. Tout de suite, la rubrique culturelle.
Bande annonce avec Alain de Frémont.
Bonjour à tous. En décembre, deux spectacles bien différents au Sel et à l'Atrium. Les 12 et 13 décembre, au Sel de Sèvres, à 21h, ce sera le temps des assassins. Oui, une double soirée pour découvrir cette pièce de Julien Lefebvre. Vous allez découvrir dans la veine d'un Conan Doyle un Londres au début du XXe siècle qui s'apprête à fêter le Nouvel An. Vous voyez, ça parle un petit peu de la fin d'année quand même.
Oui.
Dans le salon d'un théâtre, un intérieur très british, très cosy, 6 personnages. Dehors, il neige. Et par la fenêtre, Big Ben égrène les minutes avant minuit. Comme je vous le disais, on est bien dans du Conan Doyle, car c'est ce dernier qui est parmi les 6 protagonistes. Au milieu du champagne et des petits fours, un effroyable meurtre vient troubler la fête. Et c'est Sir Conan Doyle lui-même qui va mener l'enquête. On se croirait un peu dans une intrigue d'Agatha Christie, car l'auteur brouille les pistes et maintient le suspense jusqu'à l'épilogue. C'est un peu classique et convenu, certes, mais assez réjouissant. Et à l'Atrium, donc quelques jours après, le 18 décembre à 20h45, on change de registre avec Kessel, la liberté à tout prix. Mis en scène par Mathieu Ranou, le comédien Franck Desmet, seul sur scène, les yeux brillants et le corps en tension, fait revivre les 1000 facettes de cet homme qui fut grand reporter, aviateur, aventurier, comédien, romancier, il produisit 70 romans, académicien, résistant. On lui doit avec son neveu Maurice Druon les paroles du chant des partisans. Dans une existence vécue à 100 à l'heure, avec la quête du monde, l'ivresse de la vie, la perpétuelle curiosité de l'autre, c'est un véritable Tintin, mais un Tintin ayant un penchant pour les femmes et l'alcool. Pour le quotidien François, il couvre la guerre d'Espagne. Pour Paris Match, le soulèvement irlandais, puis c'est l'Afrique, la Birmanie, l'Afghanistan. De ses récits, il tirera matière à roman jusqu'à son entrée à l'Académie française. Cet homme qui vécut de 1898 à 1979 disait « Le talent, c'est la soif de vivre et le désir d'aimer. » Et il se présentait ainsi. « Il y a deux choses qu'on n'arrête jamais. Un homme assoiffé de liberté et un russe assoiffé. Eh bien moi, je suis les deux. » Franck Desmet lui permet, par son énergie débordante, il mouille sa chemise au sens propre comme au sens figuré. Je vous rappelle, c'est le 18 décembre, 20h45, à l'Atrium de Chaville.
Merci beaucoup Alain. Donc l'heure des assassins, les 12 et 13 décembre à Ocel. Et puis donc la pièce autour de Kessel, le
18.
Le 18 décembre, parfait. C'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine comme d'habitude. Passez une excellente semaine. C'était Jonathan Bord avec toute l'équipe. À bientôt.
Merci.